Irène Melianenko, bonjour.
Bonjour Hervé Gardet.
C'est l'heure de Sur les Docks avec aujourd'hui un des plus grands mystères sans doute de l'univers.
Plus grand peut-être pas, mais quand même.
Pour moi en tout cas.
Nous nous intéressons à un phénomène plutôt répandu dans les pays riches, où l'habitude de marcher pieds nus s'est perdue, car avec les chaussures sont apparues les chaussettes, qui sur tous les continents semblent engendrer une malédiction singulière, la disparition quasi inéluctable d'un des éléments de la paire, qu'il soit rayé, à poids ou uni. La bienséance ou le formatage créé par les lobbies interdisant le port de chaussettes dépareillées, chaque famille a ainsi un stock de chaussettes orphelines, dans l'espoir fou que surgisse la chaussette manquante.
À moins de n'avoir que des chaussettes de la même couleur. Bon, alors cela dit, Irène, à ce jour, aucune explication claire n'a pu être donnée à cet étrange phénomène.
En effet, Hervé, c'est pourquoi Laurent Védrine a décidé de mener une enquête où sont convoquées plusieurs victimes, mais aussi le physicien Étienne Klein, la complice de Chris Marker, coprésidente du club des chaussettes orphelines, Catherine Belkodja, et bien d'autres lanceurs d'alerte qui ont vaincu leur réticence et témoigné sur ce sujet tabou.
Bonjour, je suis avec une équipe de Radio France, on peut vous poser une question ?
Bien sûr.
En fait, moi j'ai décidé de résoudre le mystère des chaussettes qui disparaissent. Et donc je suis venu à Jussieu, là, pour voir si des gens avaient des explications scientifiques ou enfin, si les citoyens avaient des idées sur la question.
Il paraît qu'il faut regarder dans le joint de la machine à laver. C'est souvent là que ça se cache, dans le hublot.
C'est ce que vous faites, vous ?
Oui.
Et vous en retrouvez ?
Parfois.
Et est-ce que parfois vous n'en retrouvez pas ?
Oui. Et j'ai pas d'explication.
Vous n'en avez pas ?
Mm-mm.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous obsède ?
Un peu. C'est vrai que c'est pas toujours évident.
Et vous, madame, ça vous arrive ? Vous êtes touchée par ce phénomène ?
Non, je porte pas de chaussettes, d'un vrai.
Jamais ?
Non. Non, non.
C'est justement parce que vous avez peur de...
Absolument. Ouais, ouais. Donc je préfère ne pas en porter.
Parce que quand vous étiez plus jeune, vous deviez en porter.
Oui, mais je les lavais à la main, donc il n'y avait pas de problème.
C-H-A-U-S-S-E-T-T-E-S. Chaussettes.
Le syndrome des chaussettes orphelines.
Chaussettes.
Laurent Védrine.
Chaussettes.
Anna Smuk.
Chaussettes.
Chaussettes. La chaussette militaire bleue et blanche. La chaussette à fleurs. La chaussette basse noire. La bleue. Chaussette de foot rouge.
Partout où les gens sont chaussés, des chercheurs et des citoyens constatent la forte prévalence d'un syndrome de la chaussette orpheline. Dans un monde qui lutte pour garder les pieds sur terre, ces événements inexplicables nous confrontent violemment à la pensée magique. Qui sont-elles ces chaussettes qui disparaissent ? D'où viennent-elles ? Et où vont-elles ? Afin de comprendre, nous avons mené une enquête qui se veut définitive et rigoureuse. Victime en série, spécialiste des sciences dures et molles, sociétés secrètes, professionnels du textile, poètes, ils ont tous rapporté des faits troublants. Voici leur témoignage exclusif pour Sur les Docks.
Est-ce que vous pourriez décliner votre identité, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Crystal.
Lieu de naissance ?
Je suis née à Bath, en Grande-Bretagne.
Profession ?
Je suis comédienne, je fais du théâtre et de la danse.
Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter comment ça s'est passé la première fois ?
La première fois, je pense que je devais avoir 17-18 ans. C'était ma première chambre. J'étais encore au lycée, j'avais une chambre. Et j'ai commencé à être sujette à ce syndrome, aux victimes de cette affliction, dès que j'ai eu une machine à laver. C'est quand j'ai commencé à m'occuper moi-même de mon propre linge que j'ai été frappée.
Alors comment ça se déroule exactement le phénomène ?
Bah en fait c'est assez pernicieux parce que ça montre pas son vrai visage. On sait pas qu'on va être victime de ça et c'est quand on sort les choses du sèche-linge qu'on se rend compte qu'on a été frappé. Parce qu'entre la machine à laver et le sèche-linge, il n'y a pas vraiment de tri. Je passe directement d'un tambour à l'autre. Donc là, je ne peux pas me rendre compte. Puis en plus, les vêtements sont mouillés, on ne voit pas forcément les couleurs. On ne peut pas voir si les paires sont complètes. Mais après le séchage, là, par contre, c'est l'hécatombe. Au début, je dirais que ça m'a laissé froide. Hein, au début, ça m'était égal. Et puis au bout d'un moment, quand il a commencé à falloir racheter régulièrement des chaussettes, surtout avec mon budget d'étudiante, et ça a commencé à devenir un problème. Et puis après, on commence à vraiment à se poser des questions plus sérieuses, quoi. Se demander où elles vont. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec une amie qui, elle, travaille galeriste internationale, et elle m'a dit qu'en fait, ce qu'elle faisait, elle, c'est que quand elle va, par exemple, elle habite à Francfort, quand elle va à New York ou à Paris, eh bien, elle emmène toutes ses chaussettes orphelines dans l'espoir de retrouver dans l'autre continent, dans l'autre ville, dans notre appartement, de recréer la paire, par exemple, voilà. Elle m'a dit ça, très sérieusement.
C'est-à-dire que le phénomène de dispersion serait même transatlantique.
International. Il ne connaît pas de frontières. Je pense qu'il y a des sortes de trous noirs. Il y a des zones, des triangles de Bermude, des chaussettes. Et je crois qu'ici, c'en est un. J'ai même ma belle-sœur qui était venue passer du temps ici. Pas longtemps, hein, et qui est restée 3-4 jours, et en partant, elle m'a dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais chez toi, en 3 ou 4 jours, elle avait perdu la moitié de son équipage. »
Est-ce qu'on pourrait se rendre sur les lieux de l'événement, enfin de là où ça se déroule en règle générale chez vous?
Ouais.
Vous nous emmenez?
Je vous emmène. C'est ici que ça se passe.
Entre ça et ça, ça glisse ici. Ce qui, par exemple, le tambour est plein, ça bouge, à droite, à gauche, et doucement, ça tombe ici.
Mais comment la chaussette qui tourne à toute vitesse, là, elle va...
C'est pas à toute vitesse, parce que ça, c'est plein d'eau, et ça tourne doucement, parce que c'est en grande vitesse, parce qu'il y a le serrage, ça tourne en grande vitesse. Mais ce que ça lave, elle met une heure comme ça, 20-50 minutes. Elle tourne une fois à droite, une fois à gauche, et après, avec le temps, ça glisse ici. Ça tombe entre ça et ça, tambour. Et là, ça, vous avez la kiffe, vous voyez? La kiffe, là. Le plastique, ça, c'est la kiffe, ça. Bon, celle-là, ça, c'est une machine qui ne marche pas.
Et la cuve.
La cuve en plastique. Ouais. Et ça passe ici, ça tombe ici, parce que la porte est fermée, ça tombe doucement. Et lorsqu'elle est là, le tambour tourne et ça glisse.
Voilà, ben d'ailleurs, j'ai fait une machine. On va pouvoir la mettre...
Ici, là?
Voilà. C'est là, donc... Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'espace où elle puisse disparaître. Alors sinon, donc, ce qui se passe, c'est que j'ai ici un bac à récupération de chaussettes. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Non. Donc là, ça veut dire que la lessive du jour a été... a été sans victime, puisqu'il y a une paire de chaussettes et elle est... Ah ben voilà.
Ah ouais.
Bonne petite récolte. Alors, ah non, bah alors celle-là, vous voyez,
ça, c'est une paire.
Elle a retrouvé sa sœur. Mm-hmm. Mais voyez, voilà, là il y en a quand même quatre. Et ça, c'est pas le tiroir, hein. Ça, c'est la récolte de la semaine.
C'est quand même des modèles enfantins, ça.
Ben, il y a... Ça, c'est une chaussette adulte. Ça, c'est un... 39, et ça aussi c'est adulte, mais ça c'est enfant. Mais des fois, ce qui est bizarre, c'est qu'on croit les avoir perdus, et puis ça met des mois, et tout d'un coup, il y en a une qui réapparaît alors qu'il ne s'est rien passé de spécial. On se demande où est-ce qu'elle a été pendant tout ce temps-là, quoi. J'imagine qu'être une chaussette, c'est pas forcément la vie rêvée. Donc peut-être qu'il y a... C'est une sorte de manière de d'échapper à leurs conditions.
Les affaires tourneront. La machine faisait son boulot. Et moi, je faisais le mien. Et tout ça devait tourner rond. Mais ça tournait à vide. Depuis que ma chaussette était perdue, les affaires tournaient dans le vide. Et ça nous retournait. On retournait tout le vide en nous. Où c'est nous qui étions vidés et qui tournions à plein. On tourne à plein régime, dans un seul trou. C'est un petit trou de chaussette où il nous faut tourner. On est donc plein à faire tourner son petit trou. C'est comme faire tourner notre affaire, l'affaire qu'on croyait sienne. On la faisait tourner pour l'autre, pour sa chaussette, à lui aussi, que sa chaussette nous vienne. Et puis qu'elle nous remette au trou de nous-mêmes, qu'on s'y retrouve avec le trou de l'autre, le trou de où va l'autre chaussette, le trou d'où ça y repart aussi, avant que ça nous revienne, que revienne en nous l'idée de l'autre chaussette, ou bien l'idée de nous en trou, l'idée qu'il y a un trou de chaussette en nous-mêmes, et qu'il faudrait percer le mystère du trou perdu de la chaussette, pour voir enfin tout le tas sortir, le tas des chaussettes dépareillées.
Imaginez pourquoi on est venu vous rencontrer ici, pourquoi vous, pour parler de ce phénomène.
Je m'appelle Catherine Belkodja, je suis donc coprésidente du club des chaussettes célibataires avec Chris Marker. À côté de ça, je fais quand même d'autres petites choses, par exemple la lutte pour la protection de l'environnement, le droit des femmes. Alors il y a quelques années déjà que ce club existe, et nous n'avons pas encore déposé les statuts à la préfecture, puisque nous préférions rester pour le cadre d'une enquête, extrêmement transparente. Nous préférons envoyer des émissaires extrêmement discrets dans les familles. Ils ne portent pas d'insigne. Ça permet d'avoir la vérité en réalité sur cette question-là, parce que si on affichait un petit peu trop que nous envoyons des commissaires de la chaussette célibataire, évidemment, les gens n'oseraient pas témoigner réellement de ces disparitions de chaussettes qui sont quand même extrêmement inquiétantes.
Vous pensez que ça cache quelque chose ? Est-ce qu'il y a une théorie du complot ? Vous seriez partisan d'un complot ? Ou au contraire d'une explication qui pourrait rompre l'équilibre physique de la normalité ? Enfin, qu'est-ce qui est inquiétant pour vous ?
C'est politique. C'est politique, c'est sûr, c'est politique.
Mais est-ce qu'on peut trouver un endroit tranquille, intime, pour parler de cette histoire ?
On peut aller sur la pointe des pieds ou la pointe des chaussettes au rez-de-chaussée.
On vous suit ?
Voilà.
Est-ce que vous pourriez me raconter en quoi consiste ce phénomène ? Comment il se manifeste ?
Alors malheureusement, je dois regretter, parce qu'on imaginait que ce fléau s'éteindrait un petit peu avec le temps, qu'avec l'éducation dans les familles, au tiers-monde, on pourrait résoudre cela naturellement, avec évidemment l'amélioration du niveau de vie. Hélas non. Même dans les milieux les plus favorisés, les chaussettes disparaissent et on ne peut rien faire.
Mais comment ça, elles disparaissent ? Comment ça se manifeste ou ça se manifestait chez vous ?
Je pense que vous avez dû vivre le même phénomène. Vous mettez des chaussettes dans la machine à laver, le rouleau tourne, le tambour tourne, vous entendez des bruits, vous entendez de l'eau, vous entendez des boum-boum, vous ouvrez et il en manque, forcément. Le séchage des chaussettes de l'archidiocèse, bien sûr. Et il y a aussi le moment où on les met par paire, justement. Où là aussi, effectivement, elles peuvent encore s'échapper.
Elles lutteraient donc contre un magnétisme obligatoire, contre le fait d'être forcément reliées à une autre. Ou alors c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Tout ça, ce serait peut-être des vues de l'esprit.
Bon, tout d'abord, qui a décidé que les chaussettes devraient aller par deux ? Qui l'a décidé ? Moi, je pense que c'est le lobby des fabricants de chaussettes qui ont compris qu'ils pouvaient au moins doubler leurs ventes en mettant dans la tête des gens que les chaussettes, ça s'achète par deux. D'abord, on oublie d'une façon absolument scandaleuse les unijambistes. On oublie les cul-de-jatte. Et on oublie ceux qui ont trois pieds. Mmh. Voilà. Déjà. Hein. Et puis, en ce qui concerne la majorité des gens qui ont quand même deux jambes, deux pieds, deux parties de cerveau, effectivement, ça double la consommation. Parce que font les gens qui sont totalement manipulés par ce lobby des marchands de chaussettes? Quand ils voient qu'une chaussette a disparu, ils rachètent une autre paire. Donc on a affaire quand même à un très fort lobby qui est au moins aussi important que le lobby du nucléaire ou le lobby des armes. Et je pense que c'est pour cette raison que le gouvernement ne cherche pas à appuyer ses recherches.
Qui étaient les membres de ce club et qui sont-ils aujourd'hui? D'où est-ce qu'ils viennent? De quel univers?
Donc au départ c'était Chris et moi, on en avait d'ailleurs parlé dans Level 5 de ce problème récurrent.
C'est un film que vous avez fait avec lui?
Alors c'est un film qu'il a fait avec moi plutôt, hein. Je corrige parce que c'est quand même lui le réalisateur, même si j'ai une part importante dans le film, d'abord parce que je suis la seule actrice dans ce film. J'ai aussi participé au dialogue dans les parties un peu plus fiction.
Pourquoi y a-t-il chez les objets une volonté de moquerie permanente, obstinée? Si on pouvait la transformer en énergie, le monde n'aurait plus besoin de pétrole. Et pourquoi faut-il que le jour où j'invite des amis à goûter ma tarte tatin, ma spécialité, mon triomphe, ce jour-là, toutes les petites cuillères se dématérialisent. Et au moment du café, on peut tourner le sucre qu'avec des fourchettes. La honte. Et pourquoi faut-il qu'un singe, toutes les nuits, vienne me faucher une chaussette, rien qu'une, uniquement pour le plaisir de me voir la chercher frénétiquement le matin et de devoir partir avec deux chaussettes dépareillées?
Pour commencer, on va prendre les procédures d'usage hein, dans le cadre de l'enquête. Mmh. Est-ce que vous pourriez dire votre nom, s'il vous plaît?
Oui, donc je suis Colombe Linotte, quelque part en Alsace, entre les vignes et les montagnes.
Bien. On vous appelle parce qu'un certain nombre de facteurs et d'éléments nous amènent à nous dire que vous avez des informations à nous livrer. Vous avez notamment publié un texte concernant ce phénomène. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Donc j'ai écrit un livre intitulé « Le mystère de la chaussette orpheline et autres tracas du quotidien ». Parce que de manière générale, j'ai toujours eu une fascination pour les chaussettes, qu'elles soient orphelines ou trouées, mais surtout pour la fourberie bien connue des objets du quotidien. C'est pour cela que j'ai intitulé mon livre ainsi, parce que j'ai pensé que ça pouvait intéresser pas mal de monde.
Pourtant, vous avez écrit vous-même avoir la réputation d'être une hyper organisée extrémiste. Comment se fait-il que vous perdiez quand même des chaussettes?
Mais justement, c'est complètement incompréhensible. Ce qui prouve que c'est pour ça que ce mystère est tellement énervant, c'est qu'on a beau être organisé, on a beau avoir de la rigueur, on se fait quand même avoir par les objets. Être face à face avec une chaussette orpheline, ça nous met face à face avec notre défaut d'efficacité, c'est une faille dans notre système, c'est même un renversement du rapport de force entre l'objet et son possesseur. Donc je trouve que c'est normal qu'on trouve une explication de l'ordre du paranormal pour nous conforter dans notre propre raison et rigueur et humanité.
Vous avez une relation complexe avec les objets? Vous avez le sentiment qu'ils pourraient avoir une vie autonome?
Oui, je pense que les objets ont une certaine personnalité et qu'ils ont tous leur manière à eux, brutale ou subtile, de nous embêter considérablement. Donc c'est leur façon à eux de nous rappeler qu'ils sont autoritaires, qu'ils sont indomptables et même cruels parfois.
Rituel pour retrouver les objets perdus, extrait de la revue de Magie Blanche. Pour cette formule, vous aurez besoin d'une chandelle blanche, une chandelle brune, de l'encens d'olibon, de la poudre de pissenlit, de l'eau très chaude. Allumez la chandelle blanche et l'encens, puis prononcez ces paroles. Guides et esprits, prêtez-moi votre concentration et votre clarté. Menez-moi vers ce que je désire retrouver. Guides et esprits, je me laisse maintenant guider vers la chaussette perdue que je souhaite retrouver et que je ne chercherai plus. Allumez la chandelle brune et prononcez le mot de chaussette. Boire une gorgée d'eau doucement. Éteignez les chandelles et laissez brûler l'encens. Ne pensez plus à cette histoire et d'ici quelques jours, vous retrouverez l'objet.
La question n'est pas nouvelle, elle est éternelle. Elle est éternelle à partir du moment où les gens ont arrêté de marcher pieds nus et ont commencé à recouvrir leurs pieds de peau de bête. À ce moment-là, on ne se posait pas la question de la symétrie. C'était deux morceaux de peau de bête, toutes simples. Et puis petit à petit, avec la civilisation, les femmes ont appris à filer la laine, à tondre les moutons. D'abord à donner à manger aux moutons, c'est-à-dire qu'on est passé de la récolte et des... à l'élevage. Mmh. Ensuite, avec l'élevage, on a appris à tondre les moutons. Ensuite, on a appris à carder la laine. Ensuite, on a appris à filer la laine. Donc, vous imaginez toutes les évolutions technologiques pour arriver ensuite à tricoter, à inventer les points pour tricoter. Et ensuite, parce que c'est très compliqué à tricoter une chaussette. C'est pas le point mousse sur une écharpe. Hein. Il faut savoir faire les diminutions, les augmentations. Donc, toute l'intelligence... qui s'est succédé par strates pour arriver à tricoter des chaussettes. Et alors après, effectivement, la facilité, ça a été de faire deux chaussettes pareilles. Et voilà, c'était le début de la fin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous savez, on vient pour cette enquête sur les chaussettes.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on est au bon endroit?
Vous êtes... tout à fait au bon endroit, parce que nous sommes donc un magasin de chaussettes spécialisé dans les chaussettes longues, avec une variété de modèles, avec beaucoup de matières, du fil d'Écosse, c'est-à-dire un coton mercerisé, de la laine, du cachemire, de la soie, de la laine mohair, de la vigogne, et des mélanges de ces matières, pour avoir une grande variété de styles, de couleurs.
Vous savez de quand ça date le port de la chaussette? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à la plus haute antiquité ou c'est plutôt... Alors, notre civilisation?
Initialement, les chaussettes étaient plus des bandes que les gens portaient. Mais petit à petit, effectivement, pour se protéger du froid ou pour que le contact avec le cuir soit plus agréable, et avec l'avancée des techniques de tricotage, de filage qui ont permis d'avoir des fils plus réguliers... Au fil du temps, on est venu à avoir des chaussettes qui, aujourd'hui, servent surtout à avoir soit à protéger du froid, soit à avoir un contact agréable dans le pied, dans la chaussure, pour que le pied ne soit plus en contact direct avec le cuir. Et la chaussette fait en quelque sorte tampon pour absorber la transpiration qui part du pied et pour que la transpiration ne parte pas dans la chaussure.
Comment s'appelle votre magasin ?
Mes chaussettes rouges.
Non, elles ne sont pas toutes rouges déjà.
Elles ne sont pas toutes rouges, voilà, on a 200 couleurs avec... autant de motifs et de matières. Alors, ces chaussettes-là font un peu de bruit parce que il y a du papier de soie à l'intérieur. C'est un peu comme un paquet cadeau. Voilà, quand on les manipule, on entend le bruit qu'elles font et on sent qu'elles sont neuves. Et donc, un des plaisirs de la chaussette neuve, c'est d'enlever le papier de soie et de les enfiler ensuite.
Je peux essayer ? Ouais, c'est étonnant, hein. C'est finalement un des seuls moments de la vie de la chaussette où elle s'exprime.
Voilà, effectivement, elle parle. Mmh.
Alors celles-là sont faites en Italie, en France, on continue à produire des chaussettes ?
Oui, il y a encore quelques marques. Nous, toutes nos chaussettes viennent d'Italie, à l'exception de celles de chasse qui viennent du Royaume-Uni.
Sinon, on m'a dit que la plupart des chaussettes dans le monde étaient fabriquées en Asie.
Alors effectivement, il y a des villes en Chine entière, des villes entières qui sont organisées autour de la production de chaussettes, qui en produisent des millions tous les jours, avec des usines pour les chaussettes, des usines pour les fils, des usines pour... Les petites étiquettes qu'on trouve dessus, qu'on appelle le cavalier, avec tout un écosystème tourné vers la chaussette.
Vous parliez de chaussettes de cardinal, qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Eh bien, il y a une marque, Gamarelli, qui habille les cardinaux, enfin que vous voyez là-bas, qui habille les cardinaux, les évêques, le pape à Rome, et la couleur la plus emblématique de cette marque, c'est le rouge. C'est d'ailleurs... avec ces chaussettes qu'on a choisi notre nom, mes chaussettes rouges, parce que ce rouge très très vif, qui est donc celui de la, qui est la, le rouge de la couleur des cardinaux, quand on n'est pas cardinal ou qu'on n'est pas dans le clergé, le seul accessoire qu'on peut facilement porter, c'est des chaussettes, et ce rouge s'était fait connaître par Balladur ou par Fillon, qui aimait bien cette marque et cette couleur.
Et dans ce présentoir ici, j'en vois certaines qui ont aussi des petites ficelles. C'est des décorations ou c'est
les tabrues ? Dans cette marque-là, les petits bouts de ficelle que vous voyez lient le bout des deux chaussettes. Et en séparant les deux chaussettes pour les enfiler, ce petit bout de ficelle dit s'en va. Et là, en fonction des tailles, la couleur du bout de ficelle change.
Ça veut dire qu'elles sont, quand elles sont portées, elles sont libérées en quelque sorte enfin...
Alors effectivement, elles vivent complètement collées jusqu'à ce qu'on les enfile. Et là, elles sont toujours décalées quand on marche, puisque l'une est devant, l'autre est derrière. Et alors, on peut considérer qu'elles sont libérées dans la mesure où elles deviennent... leur fonction s'exerce, c'est-à-dire elles sont portées, jusqu'à ce qu'elles meurent.
Ah, parce qu'une chaussette peut mourir.
Ah bah, la chaussette en fait est la partie du vêtement qui est la plus sollicitée puisqu'elle est très fine et les frottements sont à chaque pas, c'est un nouveau frottement et les chaussettes finissent par mourir, trouées ou parfois égarées.
Il repart dans son trou de chaussette, il remet sa chaussette, il se remet dedans, dans sa chaussette, c'est-à-dire dans son trou, pour se revoir en les deux. Il voit le voir de lui revenir dans sa belle paire, ça lui revient tout doucement, la chaussette perdue revient en lui tout doucement. Il n'en revient pas de la voir revenir tout doucement, elle le ramène à son propre fond pour qu'il y soit, et qu'il y soit vraiment bien, qu'il voit la pensée des dépareillé, qui lui revient d'elle, et ça lui fait toucher le fond, celui qu'il a en lui, et qu'il tiendrait d'elle, c'est elle qui tient à toucher avec lui le fond, où on serait moins, on n'y serait plus, on serait à moins, s'il n'en tenait qu'à lui, de plus y tenir, mais il tient un peu quand même à son fond, il y tient quand même, ou bien à elle, il tient à fond, à retrouver sa chaussette, ou bien aux deux, il tient au fond perdu de lui-même, et à son fond, à elle, son fond qui a un trou, tout comme lui, lui aussi, il a des pensées orphelines.
Nom, prénom ?
Marcia de Carvalho.
Lieu de naissance ?
São Paulo, Brésil.
Année de naissance ?
64.
Profession ?
Styliste.
Au cours de cette enquête, on a vu un certain nombre de faisceaux d'indices qui nous ont amenés jusqu'à votre magasin. Qu'est-ce que vous faites ici ? Décrivez-nous cette usine, ce magasin. C'est un atelier ?
Oui, c'est un atelier, c'est un magasin. Ici, nous recevons tous les jours des chaussettes orphelines venues de partout en France.
Du coup, vous avez dû inventer un système pour utiliser ces déchets ?
Oui, au début, c'était des patchworks. En fait, je coupais et je cousais, et donc ça faisait des tissus avec lesquels je pouvais faire des vêtements et des accessoires de mode. Ensuite, la quantité que nous recevions était beaucoup trop importante, pour cette activité qui était trop artisanale. Et donc l'idée m'est venue de transformer, de trouver une solution plus industrielle. Il est transformé en fil de façon à pouvoir retricoter des chaussettes et d'autres accessoires.
C'est vraiment une nouvelle vie.
C'est une nouvelle vie, oui, tout à fait.
Vous pouvez me dire ce qui est écrit sur l'étiquette, là ?
Alors, oui, chaussettes orphelines, Marcia de Carvalho, Paris. Ceci est un produit innovant, fabriqué avec un fil recyclé à partir des chaussettes orphelines. 100% made in France, en plus de la base des chaussettes recyclées et des laines, ces fils se composent d'amour, de patience, de douceur, d'ambition, de solidarité, de rêves.
Ah. Il y a tout ça dedans.
Il y a tout ça dedans. Parce que c'est vrai qu'au début, quand j'imaginais cette chose qui n'existait pas encore, les fils, c'était vraiment un rêve, quoi. Je me disais, j'imaginais des énormes machines comme pour faire les pâtes, un grand mixeur où on balance tout dedans. Il y a cette pâte qu'on met dans une autre machine pour sortir les fils. Et puis un jour, c'est devenu réalité avec un travail avec des ingénieurs, des filatures, etc. Voilà, on a un vrai résultat. Moi, je trouve ça super. Voilà, donc là, c'est des sacs qu'on disponibilise à des endroits de collecte. Vous voyez, là, parfois, il a des perles.
Il y a beaucoup de perles, là. Hein?
Mais il a des perles
pas
parce que...
Pas beaucoup d'orphelines, hein?
Si, il y a beaucoup d'orphelines et beaucoup de perles aussi. Mais les perles, c'est souvent parce que où elles sont trouées ou trop usées. Voilà, on dit bien aux gens qu'on les prend toutes. Il n'y a plus d'élastique, vous voyez. Donc la personne ne va plus la porter, elle nous envoie.
C'est vertigineux la quantité potentielle de chaussettes que vous pourriez utiliser entre des milliards d'êtres humains qui ont tous deux pieds.
C'est ça, c'est extraordinaire. On va arriver vite à une tonne cette année.
Une tonne de chaussettes orphelines.
Oui. Divisé par 30 grammes, le poids moyen d'une chaussette.
Ça veut dire qu'il y a une autre tonne qui disparaît chaque année dans la nature.
C'est ça, hein, c'est fou.
Oui.
Face au vertige provoqué par ces révélations, nous avons décidé de consulter des scientifiques rigoureux. Nous nous sommes donc rendus sur le parvis de l'université Pierre et Marie Curie, où nous avons rencontré un enseignant en mécanique des fluides et des étudiants-chercheurs.
On fait une enquête sur le phénomène de disparition des chaussettes, qu'on appelle syndrome des chaussettes orphelines.
Ouais.
Et donc on cherche à savoir si c'est un phénomène qui touche tout le monde, dans toutes les classes sociales.
Est-ce qu'on l'étudie à l'université, par exemple ?
Par exemple, est-ce qu'il y a des recherches en physique ?
Ou en mathématiques aussi, sur le dénombrement. Il faut jouer ça avec mes collègues. Il y a aussi les trous de chaussettes aussi. La propagation, l'agrandissement des trous des chaussettes, c'est aussi un autre problème important. Ben là, vous avez le plus grand, devant vos yeux, là, vous avez le plus grand centre de recherche européen. D'accord ? Donc 80% là, des surfaces, c'est des laboratoires. Donc en fait, il y a du monde là-dedans qui travaille sur des sujets pointus, qui peuvent peut-être paraître aussi ésotériques que celui des chaussettes, mais qui sont des sujets qui nous intéressent. Il se trouve par exemple au laboratoire, il y a des gens qui ont eu un Ig Nobel pour des travaux sur la rupture des spaghettis, qui paraissent aussi bizarres que peut-être les trous dans les chaussettes, mais qui en fait ont des. Savoir le calculer, ça fait appel en fait à des techniques mathématiques, à la modélisation physique qui n'est pas si simple.
D'autres enquêteurs, en fait, étudient la piste d'un micro-trou noir qui apparaîtrait dans le tambour de la machine à laver, un minuscule trou noir. Est-ce que c'est possible, ça ?
À la vitesse de la lumière, alors.
Il faudrait arriver à cette vitesse-là.
C'est ça, donc il faudrait une machine à laver qui tourne à la vitesse de la lumière.
Ouais, si on modélise ça avec un mouvement brownien dans le temps, voilà, puisqu'il a une variation différente par rapport aux autres fonctions, alors puisqu'il est homogène, on va bien voir qu'avec une certaine vitesse, on peut arriver à la vitesse de la lumière 3/10 à la puissance 8. Et donc, au lieu de tourner la machine avec une vitesse finie, on peut espérer que l'espérance du temps d'arrêt tel que on arriverait à cette vitesse, je veux dire dans le monde réel, pourrait être finie.
Il faut utiliser nos deux cerveaux. Donc, on doit utiliser le cerveau rationnel en se servant de la logique et avec des questions mathématiques et la rigueur mathématique pour savoir, voilà, quel que soit X, le nombre des chaussettes dans le monde, et Y, le nombre de chaussettes dépareillées, et nous interroger sur ces résultats qui sont totalement disproportionnés. Et je pense que on peut quand même essayer, hein, même si on n'y croit pas complètement, de tenter avec un pendule de trouver la place de la chaussette disparue. Ça peut nous emmener très loin. Ça peut nous emmener dans la maison d'à côté, mais ça peut nous emmener aussi dans un autre pays ou dans une autre dimension.
Est-ce que vous pouvez décliner votre identité ?
Je m'appelle Étienne Klein.
Un lieu de naissance ?
Paris, 14e.
Une profession ?
Physicien.
Un signe particulier ?
J'ai des cicatrices.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une sorte de récurrence ou en tout cas des occurrences de cette thématique de chaussettes dans l'histoire de la physique ?
Bon, je connais surtout l'histoire des chaussettes d'Einstein. Hein. Assez tôt dans sa vie, Einstein a cessé de porter des chaussettes, en tout cas cessé d'en porter systématiquement. Et on peut trouver plusieurs explications, mais aucune n'est vraiment sûre ni précise. Une explication qui remonte aux années qu'il a passées à Zurich, quand il était étudiant au Polytechnicum, c'est qu'il transpirait beaucoup des pieds. Et du coup, des pieds qui transpirent dans des chaussettes, ça fait des odeurs encore pires que quand on n'a pas de chaussettes. Et puis ensuite, il y avait cette idée que après la Deuxième Guerre mondiale, s'il y avait une Troisième Guerre mondiale, elle se ferait ensuite avec... elle laisserait des gens dépourvus de toute matière première et donc sans chaussettes. Et qu'il fallait donc s'entraîner à vivre dans un dépouillement que le refus de porter des chaussettes ou le renoncement aux chaussettes permettait d'envisager. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on fabrique des chaussettes qui ont des nanoparticules à l'intérieur, donc quelque chose de quantique dans la chaussette, puisqu'il y a des nanoparticules à l'intérieur, qui sont des nanoparticules métalliques, et qui ont des propriétés bactéricides.
Il y a une autre anecdote, il faudrait que je vous montre, en fait, si je vous montre mon pied droit, et après, je vous montre mon pied gauche. Ça vous fait penser à quelque chose ?
Oui. Oui, vous avez deux chaussettes de couleurs différentes. Une est rayée, l'autre pas. Une est rouge, l'autre est un mélange de bleu ou de noir, je vois pas bien, et de rouge. Ouais, de bleu et de rouge. Et donc, vous avez des chaussettes qui n'ont pas la même couleur. Or, la paire de chaussettes a toujours normalement la même couleur. Donc, vous échappez au code. Et d'ailleurs, si je vois quelqu'un apparaître, ça c'est un exemple qui a été proposé par un physicien qui s'est intéressé de près à l'interprétation de la mécanique quantique, si je vous vois apparaître au coin d'une rue, je vois votre premier pied et je vois que votre chaussette est rouge. Immédiatement, je saurai que la seconde chaussette est rouge avant même de la voir. Donc j'ai une information sur un événement avant même qu'il se produise. Pourquoi ? Parce que je sais que l'habitude, la culture font qu'on a l'habitude de porter des chaussettes de même couleur. Et donc vos couleurs de chaussettes, les couleurs de vos deux chaussettes sont absolument corrélées. Mais elles sont corrélées non pas parce qu'il y a une information qui passe de la première chaussette vers la seconde dans l'opération que je viens de décrire, mais parce que vous les avez mises, vous, en même temps, en obéissant à des codes vestimentaires qui viennent de la culture. Alors qu'en physique quantique, eh bien, on a découvert, et c'est quelque chose qui étonnait beaucoup Einstein avant que ce soit prouvé expérimentalement, qu'il y a des intrications, il y a des corrélations entre particules, entre paires de particules, comme il y a des paires de chaussettes, qui sont beaucoup plus fortes que celles que je viens d'indiquer. Autrement dit, ça ne vient pas d'une cause commune qu'ils auraient préparée dans des états corrélés, mais ça vient du fait qu'il existe une sorte de lien entre elles, qui n'est pas médiatisé par un transfert de particules dans l'espace, une sorte de corrélation très forte, d'intrication, comme on dit, qui fait que la seconde chaussette va adapter sa couleur à la détection que vous aurez faite de la première chaussette. Et c'est cette question-là que John Bell a travaillée. Et il a utilisé l'exemple de monsieur Bertelmann comme étant ce monsieur qui porte deux chaussettes de couleurs systématiquement différentes, ce qui vient interroger l'habitude que nous avons de considérer qu'elles sont corrélées en étant toujours de la même couleur.
Le mystère de la chaussette disparue demeure depuis des générations entières dans toutes les familles de France. Le mystère de la chaussette disparue.
Vous avez remarqué par exemple que dans les manuels d'éducation pour enfants, on ne mentionne jamais les problèmes de chaussettes. Mmh. Jamais. Donc c'est bien censuré. Voilà. Est-ce qu'on sait par exemple que des enfants qui portent des chaussettes dépareillées ont un potentiel de développement beaucoup plus important ? Ça fait des enfants forts. Parce qu'ils doivent lutter contre les moqueries des petits camarades. Et quand on doit assumer ces petites moqueries dans une classe, on se muscle, on apprend à imposer son individualité. Et en tout cas, moi je dirais que pour tous les parents qui espèrent plus ou moins que leurs enfants soient artistes ou intellectuels, c'est presque une nécessité absolue de donner des chaussettes différentes aux enfants. Sinon, ça ne sert à rien de leur donner des cours de piano ou de violon si c'est pour ensuite leur donner deux chaussettes pareilles. C'est lamentable.
Pourquoi est-ce que, face à des situations qui paraissent irrationnelles, les gens font toujours appel à la physique quantique?
Là encore, c'est peut-être parce qu'on ne la comprend pas bien, donc on pense qu'elle doit contenir des noyaux explicatifs qui nous échappent et qui peuvent servir à tout, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle explique, on peut imaginer qu'elle explique tout ce qu'on ne comprend pas. Donc je ne connaissais pas la théorie des trous noirs dans les machines à laver, mais ce qui est important, c'est que la notion de chaussette n'est pensable que par paire. C'est-à-dire, ce qu'on pense comme objet fondamental, c'est pas du tout la chaussette, mais la paire. Et moi, ça me fait penser à un truc assez étonnant qui a trait à l'antimatière. Vous savez que dans les années 1930, un physicien britannique, Paul Dirac, qui lui portait des chaussettes, a écrit une équation qui lui a permis de prédire l'existence des antiparticules. Et il a assez vite compris que sa théorie impliquait que ces objets-là ne pouvaient être produits que par paire, un peu comme les chaussettes. Les chaussettes ne sont pas vues individuellement. Ce qu'on voit, c'est la paire. C'est comme si on les reliait nous-mêmes dans la perception que nous en avons par un lien invisible. En fait, les paires sont parfaitement séparées. Enfin, les chaussettes sont parfaitement séparées. Vous pouvez en prendre une ici, envoyer l'autre là-bas. D'ailleurs, vous pouvez en perdre une. Ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout connectées physiquement. Mais symboliquement, elles le sont. De sorte que lorsqu'une chaussette disparaît, l'autre perd immédiatement sa valeur. Ce qui veut dire que la valeur d'une chaussette est liée à l'existence de la paire. C'est pas une valeur intrinsèque, c'est pas une propriété. Alors pour reprendre l'exemple quantique, c'est pas une propriété qui vient d'elle-même. C'est une propriété qui vient de l'existence de l'autre chaussette de la paire. Et donc là, il y a une forme d'intrication qui me fait renoncer à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en discutant avec vous, je me rends compte que je n'avais pas vu ça, c'est qu'une certaine propriété de la chaussette, qui est, disons, sa valeur financière ou même utilitaire, en commençant par celle-là, utilitaire, est directement liée à l'existence de l'autre, de sorte que, en effet, elles sont très fortement corrélées.
I'd like to know your first name and last name, please.
Bonjour, pourriez décliner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît?
Okay, so my first
eh bien,
name
mon prénom,
Marie,
c'est Marie, même si beaucoup de gens m'appellent Marushka. Et mon nom, c'est Polakova.
Place of birth.
Lieu de naissance.
Prague. À Prague.
Profession. Profession.
Artiste, c'est ce qui conviendrait probablement le mieux.
Et vous êtes où, là, maintenant?
Là, je suis à bord du bateau Eleonora, qui est amarré dans le Winterhafen, le port de Linz, c'est en Autriche, sur le fleuve Danube.
Il paraît que vous êtes une des rares personnes sur Terre à proposer une solution technologique pour retrouver les chaussettes perdues. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette machine que vous avez conçue?
Oh, thank you. The device called Lost.
La machine s'appelle Lost Socks Locator.
Well, as I say, it's a prototype.
Bon, c'est encore un prototype.
The first prototype was made of cardboard, and then the
le premier
one
était en carton, et le second est construit avec du bois très léger. Donc, évidemment, ça ne ressemble pas à ce que serait le produit fini.
That has the size of 15 by 13
donc c'est une boîte et les dimensions sont de 30 cm x 15 x 5 cm. Il y a un double fond à l'intérieur et c'est là que se trouve le circuit électronique. Et juste au-dessus, il y a un espace pour placer la chaussette qui reste. Il y a aussi une petite antenne avec une vraie coquille d'escargot qui sert de parabole. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Donc, comme je vous le disais, c'est une boîte qui peut tenir dans la main et à l'intérieur, on dépose la chaussette qui n'est pas perdue. Ah, et j'oubliais, il y a aussi une diode connectée. Donc, si vous commencez à détecter le signal de la chaussette perdue, eh bien, cette lumière va clignoter en envoyant des sortes de flashs. Et pour que le système fonctionne, il faut d'abord que toutes vos chaussettes soient équipées de puces. Donc, chaque chaussette devient un petit émetteur radio. Et la boîte, c'est le récepteur qui capte ce signal. Donc, voilà, en gros, vous découvrez la disparition d'une de vos chaussettes. Oh non, pas encore. Alors vous mettez celle qui reste dans la boîte. Le Lost Socks Locator se règle automatiquement sur la fréquence de la paire et commence à scanner les environs pour retrouver l'autre, celle qui est perdue.
Where is the pairing sock? I will put the phone actually onto the lost sock locator.
Alors, on va essayer. Je vais mettre le téléphone dans la boîte. Vous m'entendez?
Oui, oui, je vous capte.
Ok, vous entendez? Est-ce qu'il y a un peu d'interférence? Alors, allons-y. Donc, il y a une chaussette dans la boîte et une chaussette quelque part par terre dans le bateau.
Ok, on y va.
Bon, je fais comme si je ne savais pas où elle est. Hein. Je suis en train de me déplacer. Je la cherche. Comme elle est probablement très proche, on peut déjà entendre ce bruit qui avertit qu'on chauffe. Voyons par là. Oui.
Oh.
Ça y est, je l'ai presque.
Vous avez trouvé quelque chose?
Oui, oui, on y est. Oui, ça y est, on a capturé la chaussette.
Malgré l'espoir porté par cette nouvelle technologie, rien ne prouve que l'épidémie puisse un jour se résorber. Il semble que trop de forces occultes et d'intérêts contradictoires soient en jeu dans cette affaire. Comme en témoignent ces tout derniers propos, empreints de doute, de confusion et de propagande.
Chaussette orpheline, c'est une appellation bizarre, parce que une chaussette, elle a perdu sa sœur, pas son père ou sa mère. Parce qu'une chaussette, c'est une chaussette. qu'elle soit seule ou pas, c'est une chaussette. Pourquoi on a besoin de la qualifier d'orpheline, sachant que ça veut simplement signifier que la seconde a disparu? Mais le fait que l'autre ait disparu change certes la valeur de celle qui est restée, on l'a dit, mais pas sa nature. Est-ce que la solution ne serait pas d'abandonner les chaussettes et de passer, par exemple, quand on a froid aux pieds, à des chaussures thermiques? Est-ce qu'il ne faut pas envisager une solution radicale?
C'est plutôt métaphysique, hein. Pourquoi moi, déjà? Je m'organise bien, j'aime bien m'occuper du linge. Y a quelque chose qui me trouble, hein. Y a un truc qui me dépasse, parce que surtout quand... À chaque fois que je reviens ici et que je regarde la boîte, je me dis quand même, ça fait vraiment beaucoup. Je pense en effet qu'il y a des choses qui nous échappent, et pas que des chaussettes. Il y a des mystères.
En tout cas, personne ne peut nier l'importance de ce phénomène. Et je pense qu'un jour, les langues se délieront et que chacun fera son autocritique, évitera de transmettre comme ça des théories totalitaires sur le fait qu'on doit porter deux chaussettes pareilles, qui finalement conditionnent énormément les comportements sociaux et pénalisent les victimes de ces... Voilà, je pense que nous, les mères... Nous avons une responsabilité de nous opposer à ces théories totalitaires. Et c'est, voilà, on doit protéger nos enfants, on doit protéger ce qu'on aime.
Eh bien, je dirais longue vie aux chaussettes longues, celles qui ne tombent pas et qui sont belles et agréables. Plus elles sont vives, moins on les égare dans le bac à linge sale, parce que elles, même quand elles sont au fond, on voit le rouge vermillon, le fuchsia, le jaune, qui font voir leur couleur au fond du bac à linge sale.
Le syndrome des chaussettes orphelines. Avec Cristal Shepercross, Catherine Belcoja, Marcia De Carvalho, Étienne Klein, Colombe Linotte, Marie Polakova, Vincent Metzger du magasin Mes Chaussettes Rouges. Texte à trous de Charles Penquin. Extrait du film Level 5 de Chris Marker. Coordination Irène Omelianenko. Attachée d'émission Christine Bernard, Alison Sinard. Stagiaire Milena Aeli. Prise de son Philippe Etienne, Claude Nior. Mixage Bernard Laniel. Un documentaire de Laurent Védrine, réalisé par Anna Smuk, pour Sur les Docs.
Allez, pour réécouter et télécharger ce documentaire, ça se passe sur internet, franceculture.fr, à la page de Sur les Docs.